Bonjour et bienvenue sur Radio Judaïka Strasbourg pour cette émission spéciale sur la fête de Pessah. Avec nous, Harold Avraham Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Bonjour, monsieur le grand rabbin.
Bonjour, Jean.
Cette année, le premier stellaire coïncide avec un vendredi soir. C'est pas la première fois. Cette année, cette fête de Pessah débute ce soir, le 15 avril, et se terminera le samedi 23 avril à la fin du Shabbat. Notons que l'entrée du Shabbat, il faut faire attention, parce que l'entrée du Shabbat et le début du Seder, c'est pas au même horaire, ce grand rabbin.
Tout à fait. On fait rentrer Shabbat, comme vous le savez, un petit peu avant le coucher du soleil, 18 minutes avant le coucher du soleil. Or, on ne peut débuter le Seder qu'à la sortie des étoiles, soit environ une heure après l'horaire maximal de l'allumage des bougies. Alors, on va dire ce qui ne pose pas nécessairement de problème lorsqu'on est un petit peu plus tôt, au mois de mars ou début avril, a fortiori lorsque, et ça arrive certaines années, nous sommes encore à l'heure d'hiver, donc la nuit est relativement tôt. Il faut essayer de s'adapter lorsque le Seder tombe très tard dans le calendrier, comme cette année, où la nuit donc, est aux alentours de 21h, 21h02. Et il faudra donc impérativement attendre la nuit pour commencer le Seder. Tout simplement. Alors, tout simplement parce que, y compris le Kiddush, parce que le récit de la sortie d'Égypte et les mitzvot qui sont inhérentes à la sortie d'Égypte ne peuvent être récités que la nuit, car c'est à ce moment-là que nous sommes sortis d'Égypte. Et c'est la sortie d'Égypte ne peut pas être racontée et ne peut pas être vécu avant finalement la date exacte à laquelle elle s'est déroulée. Or, il s'avère, alors on aurait pu imaginer que le kiddush puisse déjà commencer avant, puisque le temps qu'on fasse kiddush, qu'on se lave les mains, qu'on consomme le karpas, il y a déjà un certain temps qui s'est écoulé, surtout lorsqu'on est nombreux à table, où on sait que les premières étapes peuvent déjà prendre parfois jusqu'à une heure. Mais le kiddush, or nous le savons, le kiddush, tous les Shabbats, tous les jours de Yom Tov, peut être récité avant la nuit, à partir du moment où on a déjà fait rentrer la fête ou le Shabbat. Il y a une exception, le soir de la fête de Pessah, puisque le Kiddush, finalement, vient également célébrer et introduire la soirée du Seder. Donc il est indirectement, ou voire même directement, lié aux autres mitzvot de la soirée. C'est la raison pour laquelle il faudra, y compris pour le Kiddush, j'insiste bien là-dessus,
Kiddush du Shabbat,
y compris pour le Kiddush, le Kiddush Shabbat, ce sera exactement la même chose pour le deuxième Seder, attendre la sortie des étoiles pour démarrer le Seder. Alors, on est conscient que c'est tard. Il faut s'imaginer que dans d'autres villes, en France et ailleurs en Europe, même un peu plus au nord, c'est encore plus tard. Donc, à Strasbourg, on est plutôt bien lotis avec vraiment l'horaire de démarrage le plus tôt de France. Et on fera un effort pour bien s'adapter à cette situation. Et je préconise notamment, pour ceux qui en ont la possibilité, je sais que certaines personnes ont beaucoup de choses à faire la veille de Pessah, certains travaillent encore même éventuellement en début de matinée, mais on essaiera en tout cas de faire une sieste pour pouvoir être en forme le soir du Seder.
Alors, l'horaire de l'entrée du Shabbat entre 18h57 et 20h20, et la fin du Shabbat, ce sera samedi à 20h08, on va signaler qu'il faut faire Abdallah et que l'Abdallah est inscrit dans les livres de la fête. Début de Seder, j'ai vu 21h01, vous confirmez ?
Voilà, exactement, je disais aux alentours 21h, vous avez sorti vraiment l'horaire exact pour être extrêmement précis. 21h01, c'est donc le moment où on pourra commencer le Seder.
Alors,
Hein, Jean, quand même, c'est pour faire gagner du temps à nos auditeurs. Qu'en ce qui concerne les préparatifs, on pourra, les préparatifs du CEDER, d'ailleurs, ça sera même préconisé, on en avait même parlé, me semble-t-il, ou j'en ai parlé en fait dans une autre émission, il faudra faire en sorte que certains aliments soient préparés déjà à l'avance, cette année où ça tombe justement Shabbat. Il y a certaines choses, certains préparatifs que l'on ne peut pas faire justement durant Shabbat et qu'il faudra vraiment s'être assuré, y compris des choses qui peuvent paraître un petit peu banales comme la préparation de l'eau salée, mélanger l'eau avec le sel.
Avant.
Important de le préparer avant Shabbat. Donc là, pour le coup, ce n'est même pas un conseil, c'est vraiment une obligation de préparer les choses avant. Et ceux qui veulent préparer la table du Seder, encore une fois, chacun ses coutumes, certains préfèrent le faire immédiatement en rentrant de la synagogue, mais on peut avoir déjà préparé sa table du Seder avant, ça permet de gagner du temps et de ne pas perdre encore des minutes précieuses lorsque l'on rentre de la synagogue et que l'heure est déjà très avancée.
J'ai dit Shabbat et Yom Tov, il y a une préséance, Il y a des prières qu'on fait avant ou pas du tout?
Vous parlez par rapport à Shabbat?
Oui, oui.
Alors bien sûr, Shabbat, il y a une particularité cette année. Certaines tfilotes particulières, prenons tout simplement la tfila du vendredi soir. Donc
ouais.
Il y aura, alors là, encore une fois, chacun selon ses coutumes, puisque les coutumes diffèrent entre Ashkenazim et Sfaradim sur l'endroit où l'on commence la tfila le vendredi soir, c'est-à-dire est-ce qu'on récite depuis les Chuner Anena toute la Kabbalah de Shabbat ou est-ce qu'on commence uniquement à l'Echa Dodi, vraiment les coutumes diffèrent, certains misement les David, donc là vraiment tout ça, vous référerez à votre rabbin et tout simplement à votre communauté, vous laisserez guider par la tfila de votre communauté, de votre synagogue. Il y a un passage que l'on récite, comme vous le savez Jean, à la fin de l'office du vendredi soir, qui est cette petite Chazara qui a été instillé, alors, et qu'on ne récitera pas cette année.
Ah.
Alors justement, c'est parce que ça va répondre un petit peu à votre question de savoir est-ce qu'il y a une préséance du Shabbat sur le Yom Tov, comment est-ce que ce conflit un petit peu entre ce moment du Shabbat et ce moment du Yom Tov, qui n'est pas propre à Pessah, hein. On a beaucoup d'Yamim Tovim dans l'année qui peuvent coïncider avec Shabbat. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce fameux passage qu'on a l'habitude de réciter du Magen Avot Bidvaro, cette petite répétition qui a été instituée, rappelons-le, c'est ce qui va nous permettre de comprendre la réponse, qui a été instituée à la base pour permettre aux retardataires, lorsque à l'époque les synagogues se trouvaient un petit peu à l'extérieur de la ville, de ne pas avoir à rentrer seul. On avait peur que ceux qui étaient arrivés en retard à la synagogue et n'aient pas encore terminé leur amida et leur tfila, eh bien se retrouvent à rentrer seuls. Et donc il y a eu cette institution de nos sages de ce passage pour rallonger un petit peu le temps de la tfila et permettre à ceux qui étaient en retard et qui étaient encore plongés dans leur amida de pouvoir sortir en même temps que le reste du tzibour et de ne pas se retrouver, alors il y a une dimension un petit peu mystique, se retrouver seul à rentrer dans des chemins un petit peu isolés et être en proie, ce qu'on appelle les mazikines, une explication un peu mystique, mais qui n'a pas lieu d'être le soir de Pessah, parce que le soir de Pessah, c'est l'El Shimurim, Jean. Le soir de Pessah, c'est une soirée où l'on est gardé, où l'on est protégé entièrement par Akadosh Baruch Hu, d'où également ce fameux minhag de ne pas réciter le Kriyat Shema avec tous les psukim, uniquement la bracha du Kriyat Shema à la mita, de ce schéma que l'on récite avant d'aller se coucher, et le schéma lui-même, mais pas tous les psaumes qui accompagnent normalement ce Kriyat Shema, qui sont là normalement pour essayer d'accorder une protection particulière et qui n'est pas nécessaire le soir de Pessah. Donc vous voyez que malgré ce conflit entre Shabbat et Pessah, il y a des rajouts qui sont propres à la fête de Shabbat, dans l'Amida, Mekadesh à Shabbat, Veyisrael Vazmanim, etc. Mais il y a également certaines choses qui vont être un petit peu effacées par toute la dimension de Pessah et cette dimension de la protection particulière. Et celle-là, bien sûr, qu'on soit un jour de Chol, un jour de semaine ou qu'on soit un jour de Shabbat, eh bien, elle transcende un petit peu le temps. Le soir de Pessah, le 15 Nissan, c'est un jour particulier, peu importe qu'on soit Shabbat, qu'on soit un jour de semaine. Et cette dimension-là, eh bien, elle s'impose.
Pour Pessah, on doit enlever évidemment le Chametz. Ce soir, ça, tout le monde le fait, enfin, j'espère. Et nos rabbins nous enseignent qu'il faut aussi enlever son chametz dans son cœur et dans sa tête. Je n'ai pas compris.
Alors, il y a toujours une dimension, bien sûr, imagée, cachée. Enlever le chametz, bien sûr, c'est avant tout le faire disparaître physiquement de sa maison. Et il est vrai qu'à ce niveau-là, on n'a pas grand-chose à reprocher finalement au foyer juif. On voit avec quelle énergie les gens s'emploient à se débarrasser de ce chametz. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu vérifier aussi bien dans les foyers les plus pratiquants que même dans les foyers qui sont un petit peu moins pratiquants. Il y a vraiment quelque chose de particulier avec cette fête de Pessah. C'est une fête qui tient à cœur et c'est une fête dans laquelle les gens prennent plaisir, même quand parfois on a l'impression de se faire mal, d'exagérer un petit peu, mais les gens prennent un plaisir tout à fait particulier à préparer la maison pour Pessah. J'ai eu l'occasion de le dire lors d'une émission.
Vous faites d'autres émissions souvent.
Le lundi, j'ai fait une belle émission Zoom à laquelle on m'a invité sur les minagim alsaciens, donc sur les traditions spécifiquement alsaciennes de Pessah. Et on rappelait à quel point, même en Alsace, il était de tradition, je ne sais pas pourquoi je dis même en Alsace, de très très tôt déjà commencer le nettoyage de Pessah. Certains déjà même avant la fête de Pourim, ça a commencé déjà en partie à partir de Hanouka. Et puis bien sûr ça se prolongeait pendant les semaines qui suivaient pour s'accélérer à partir de Pourim. Mais on mettait un soin tout à fait particulier et de telle sorte que finalement, les préparatifs prenaient presque plus d'importance que la fête elle-même. On s'engageait, on employait plus d'énergie à faire en sorte que les préparatifs soient totalement encadrés et qu'ils puissent se dérouler de la manière la plus stricte possible. Et ces préparatifs éclipsaient presque la dimension de la fête de Pessah. Et d'ailleurs, nos sages nous enseignent que les préparatifs, parfois l'énergie que l'on emploie dans les préparatifs de la fête de Pessah ont la même valeur que la mitzvah elle-même. Alors, la question que vous avez posée, donc...
Ça veut dire quoi, enlever le chametz?
Enlever le chametz, alors voilà, donc je vous disais qu'il y a une dimension toujours physique à prendre au premier degré, et une dimension, bien sûr, un peu plus métaphorique. Or, à Pessah, s'il s'agit d'enlever le chametz physique, le chametz, on le sait, c'est ce qui gonfle. Et le chametz fait référence, d'après nos sages, à l'orgueil. Et donc il y a un travail intérieur aussi. La Torah ne peut pas envisager ce travail de manière uniquement superficielle. Elle encourage systématiquement, on le sait, il y a des symboles et des messages extrêmement forts dans toutes les mitzvot que nous pratiquons. Éliminer le chametz, c'est également éliminer finalement toute cette dimension d'orgueil, d'ego surdimensionné qui peut exister à l'intérieur de l'homme. Consommer la matzah, c'est inviter l'homme à consommer un aliment qui, lui, justement, n'a pas eu le temps de gonfler. Mais comme, et là, je m'en réfère à ce que disait notre ami Yonatan Razel lors d'un très beau Dvar Torah dont il nous a gratifié à la Seouda Shlichit lors de sa venue à Strasbourg. Vous voyez, ce n'est pas seulement un chanteur, c'est pas uniquement un chanteur, mais également un homme de Torah qui passe beaucoup de temps à étudier et qui nous a gratifié de très belles paroles, et notamment donc lors de la Seouda Shlichit, où il faisait remarquer que de manière assez paradoxale et assez surprenante, on ne consomme pas de chametz, mais nos maîtres ont tenu à ce que l'aliment que nous consommions à Pessah, qui n'ait pas eu le temps de gonfler, soit malgré tout un aliment qui potentiellement pourrait devenir chametz. Et c'est ce qui est intéressant, parce que pour imaginer que si il est nécessaire de fuir le chametz, eh bien qu'on ne prenne pas le risque de consommer un aliment qui potentiellement peut devenir chametz si on ne le surveille pas. Or, on a choisi à dessein de prendre un aliment qui est vraiment sur une ligne de crête finalement entre le chametz et ce qui ne l'est pas, comme pour nous dire que s'il faut fuir absolument cet orgueil, s'il faut essayer de canaliser un petit peu cet ego, eh bien il ne faut pas non plus aller à l'extrême inverse. Il faut être capable de comprendre que la vie d'un juif, c'est une vie dans un monde qui est un monde matériel tel qu'il existe, avec ses défauts, avec également ses qualités, que la vie d'un juif, c'est d'être capable de s'inscrire totalement, pleinement dans ce monde, mais en parvenant à canaliser un petit peu tous ces excès. Et ça, c'est très, très important. On ne préconise pas une vie d'ascèse, une vie où on serait totalement retiré du monde. C'est une vie où on est capable de vivre vraiment de plein pied dans ce monde, mais en essayant justement un petit peu d'équilibrer les choses et de canaliser tout ce qui pourrait nous amener à développer notre mauvais penchant.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette fête, comme dans d'autres fêtes, c'est qu'elle a plusieurs noms. On peut les citer rapidement.
Là, on peut en citer certains. Alors, bien sûr, Chag HaMatzot, la fête des Matzot, puisque la Matzah, c'est le pain azim que nous consommons le soir de Pessah, est la mitzvah majeure de cette soirée de Pessah. Chag HaPessah, bien sûr, c'est la fête de Pessah, parce qu'Hachem a sauté au-dessus des maisons. Donc Pessah qui veut dire sauter, parce que Dieu a sauté au-dessus des maisons des Bnei Israël lors de la Makat Bechorot, lors de la plaie de la mort des premiers-nés. Chag Aviv, c'est la fête du printemps également, puisque Pessah doit toujours coïncider avec le printemps. Il y a une idée très très forte derrière le printemps. Le printemps, c'est le renouveau. Le printemps, c'est la nature qui sommeillait et qui se remet tout d'un coup, mais de manière visible, à sortir de sa léthargie et à engager de nouveau un mouvement, un développement, et un petit peu à l'image du Klal Israël qui était plongé dans une sorte de léthargie pendant 210 ans, un petit peu sonné et en quelque sorte éteint au niveau spirituel par les Égyptiens et par ces mœurs totalement dépravées et dégradées dans lesquelles ils avaient baigné pendant toutes ces années. Et à Pessah, il y a ce réveil. Mmh. Ce réveil, c'est le réveil du printemps. D'où l'intérêt et l'importance aussi que la Torah accorde à cette saison, puisque vous le savez, c'est d'ailleurs Pessah qu'on l'apprend, que la fête de Pessah doit être Chodesh HaAviv, elle doit systématiquement coïncider avec le printemps. Et c'est de là qu'on, notamment aussi que l'on sait que notre calendrier est lunisolaire, il n'est pas uniquement lunaire. S'il était uniquement lunaire, on aurait un décalage des fêtes par rapport aux saisons, puisque nous avons 10 à 11 jours de moins dans le calendrier lunaire par rapport au calendrier solaire, ce qui fait tous les 3 ans, un décalage d'un mois. Et donc, si on n'était pas capable, tous les 3 ans environ, de rajouter ce 13e mois dans l'année, on ne se recalerait pas sur les saisons et on serait totalement en décalage, comme ce qui existe chez nos amis musulmans, où les fêtes sont décalées d'année en année. Chez nous, il est très, très important que les fêtes puissent coïncider avec les saisons parce qu'il y a un lien extrêmement fort entre les fêtes et les saisons. C'est valable pour Pessah, c'est peut-être ce qu'il y a de plus symbolique, le printemps, mais c'est également valable pour Shavuot. Il y a une dimension très symbolique de Shavuot par rapport à l'été et également de Sukkot par rapport à l'automne.
Alors, il y a une deuxième nouveauté à Pessah, c'est que dans Pessah, je crois. On lit 2 fois le Hallel dans la même soirée. Le Hallel, c'est en général le matin, après la prière, le matin, dans les fêtes.
Alors effectivement, c'est un cas unique dans le calendrier juif, la lecture du Hallel le soir. Alors vous avez souligné 2 fois, d'après certaines traditions.
Une fois après la prière.
Les Sfaradim récitent le Hallel et dans la Tfila, puis dans la Haggadah. Certains Ashkenazim, notamment dans le Minag, dans la tradition polonaise, aussi ont l'habitude de réciter le Hallel à la synagogue, puis de le réciter à nouveau à la maison dans la Haggadah. La tradition alsacienne et la tradition de Rhénan n'est pas de réciter le Hallel dans la Tfila. Donc, une fois la Tfila terminée, on rentre à la maison. En revanche, là où tout le monde est d'accord, bien sûr, c'est pour réciter le Hallel dans la Haggadah.
D'accord.
Donc, disons que, d'après tout le monde, le Hallel est récité au moins une fois dans la Haggadah, mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est récité la nuit. Et ça, c'est unique. Il n'y a pas un autre moment dans l'année où on récite le Hallel la nuit. Les jours, les autres jours de l'année où l'on récite le Hallel, eh bien, la récitation se fait uniquement le matin à la fin de l'office de Shacharit. Il faut savoir que le Hallel est en quelque sorte finalement un petit peu le point d'orgue de cette soirée du Seder. La soirée du Seder, vous le savez, Jean, elle se vit comme une progression, une lente progression qui nous fait partir de Kadesh. Kadesh, c'est le Kiddush, mais c'est aussi la volonté peut-être que l'on annonce à l'impératif. Kadesh, sanctifie-toi, la volonté que l'on a de se sanctifier et donc vraiment de prendre conscience pleinement de cette dimension tout à fait extraordinaire de la soirée du Seder pour, petit à petit, en racontant l'histoire, puis en consommant les aliments, c'est-à-dire une expérience qui n'est pas uniquement une expérience intellectuelle, mais également une expérience sensorielle, une expérience physique, eh bien, de prendre conscience un petit peu, d'intégrer toutes ces choses-là et de pouvoir naturellement avoir envie, à la fin du Seder, de remercier Hachem. De remercier Hachem d'appartenir à une grande famille, de remercier Hachem d'appartenir à une histoire, de remercier Hachem de vivre une existence qui a du sens, de remercier Hachem d'être conscient de son identité, de la vivre pleinement. Et c'est cela, en réalité, le Hallel. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le Hallel, c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est l'aboutissement de la soirée du Seder. Alors, on l'a décomposé en 2 parties, c'est vrai, il y a une première partie du Hallel qui est restée à la fin du Maguid, à la fin du récit de la Haggadah, de l'histoire de la sortie d'Égypte, à proprement parler, et une deuxième partie, justement, qui se fait volontairement après le repas. Parce qu'après le repas, on a encore envie de remercier Hachem. Après avoir accompli la mitzvah de la consommation de la matzah, du maror, eh bien, on veut remercier Hachem. Et on remercie Hachem même après avoir mangé du maror. C'est ce qui est intéressant. On pourrait croire que remercier Hachem, c'est uniquement pour les bonnes choses. Non. Remercier Hachem, c'est pour l'ensemble de notre histoire. C'est à la fois pour les bons moments, à la fois pour les mauvais moments. C'est être conscient que la vie, elle est faite parfois d'épreuves, de moments difficiles, qu'il faut savoir les surpasser, et que c'est justement grâce à cette foi inébranlable que nous avons en Hachem et en cette histoire que nous portons, que nous arrivons à dépasser ces difficultés. Et donc le Hallel, vraiment un aboutissement, et c'est la raison pour laquelle on l'introduit dans la Haggadah. Vraiment, il est tout à fait de circonstance le soir de Pessah. C'est exactement au même titre que ce Hallel est récité en principe le matin. Vraiment, comme je le dis, une louange qui...
Le soir
de Pessah, un cri du cœur. Exactement, le Hallel, c'est un petit peu ça, Jean. Vous avez trouvé le mot, vraiment, un cri du cœur, mais vraiment dans le sens le plus noble ici du terme, avec une volonté spontanée, finalement, et une initiative presque spontanée ici de louer à Kadosh Baruch Hu.
Monsieur le rabbin, tous les années, on nous demande de réciter la Haggadah. Mais au bout d'un moment, on connaît le début, on connaît la moitié, on connaît la fin. À quoi ça sert de raconter une histoire dont on connaît déjà la fin?
Alors, vous dites très justement que non seulement on connaît l'histoire par cœur, je pense que plus on prend de l'âge et plus on la connaît par cœur, puisque forcément on a l'avantage par rapport aux enfants de l'avoir lu quelques fois de plus. Mais je vous rappelle que nos sages vont encore plus loin, puisque dans le récit de la Haggadah lui-même, bien nous rappelons que Afilo Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, que même pour les érudits, même pour des gens qui ne se contenteraient pas d'étudier ou de lire la Haggadah le soir de Pessah, mais qui auraient pu l'approfondir même pendant plusieurs mois, pendant l'année, qui se seraient cassé la tête sur ce texte de Pessah, et qu'ils le connaissent en long, en large et en travers, qui en connaissent tous les commentaires, ou en tout cas les principaux commentaires, eh bien, malgré tout, eh bien, mitzvah, allez-nous les saper. Nous avons une mitzvah, nous avons une obligation de raconter le récit de la sortie d'Égypte, parce que, et il faut bien le comprendre, vivre le Seder, ce n'est pas raconter, ce n'est pas commémorer, ce n'est pas lire une histoire, mais c'est vivre une expérience. Et ça, c'est très, très important. Et vivre une expérience, eh bien, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on est capable de se replonger dans l'ambiance, de se replonger dans l'histoire. Une histoire qu'on connaît, mais qu'on revit de manière différente chaque année. Mmh. Parce que chaque année, en rediscutant, chaque année, grâce à la question du fiston, la question du neveu, la question du cousin, du grand-père, de la grand-mère, ou simplement de l'invité qui est à table, eh bien, on a l'occasion de revisiter cette histoire, on a l'occasion d'en découvrir, d'en extraire de nouvelles explications, de nouveaux pans finalement, et c'est ce qu'il y a de tout à fait magnifique et particulier dans cette histoire. Alors, donc encore une fois Jean, je le dis, c'est là aussi un cri du cœur, ne vivez pas cette soirée du Seder uniquement comme une commémoration, ce n'est pas du tout la dimension avec laquelle et l'état d'esprit avec lequel les Chachamim ont institué cette soirée du Seder, vivez cette soirée du Seder vraiment comme une véritable expérience. N'hésitez pas à utiliser, même pour impressionner les enfants, des artifices, vraiment tout ce que vous avez, des déguisements. Il n'y a aucun problème. Il faut vraiment, si ça vous permet de mieux ressentir les choses, de mieux vivre les choses, vivez-la comme une expérience.
Quelques questions et on arrêtera là. Juste question à l'Arik. Il faut qu'on termine le CDR à une heure précise. Je crois qu'il y a une heure maximum où on doit manger la ficomane. C'est quoi cette année, monsieur Rama ?
Voilà, tout à fait. Donc, il y a effectivement, vous le rappelez, Jean, une préconisation en ce qui concerne la consommation de la ficomane. Et la raison en est très, très simple. C'est que la ficomane est consommée en souvenir du Korban Pessah, le sacrifice pascal. Or, le sacrifice pascal lui-même devait être consommé avant Hatzot, avant le milieu de la nuit, donc de manière très logique, puisque la ficomane vient rappeler le Korban Pessah, on lui applique en quelque sorte les mêmes dinim, les mêmes règles, et c'est la raison pour laquelle, dans la mesure du possible, il faudra terminer la consommation de la ficomane avant Strasbourg 1h29, hein, bon 1h30, hein, retenez cette horaire, c'est un peu plus simple à retenir, avant 1h30 du matin, bien sûr, on peut tout à fait, et à loisir, continuer, poursuivre le CEDER par la suite. Après. Je rappelle qu'après la ficomane, il y a le Birkat Amazon, il y a le Hallel, il y a Nirza, il y a les chants de Pessah. Certains terminent la soirée de Pessah en récitant Shira Shirim, le cantique des cantiques. Et il y a aussi une possibilité de continuer le riche échange que nous avons eu pendant le Maguid, au milieu du CEDER. Donc ça, Kol Amarbel et Saper, Arezem et Choubar, plus on raconte, plus on est digne d'éloge. Donc, essayer de terminer la ficomane avant 1h30, mais aucune restriction en ce qui concerne la fin du CEDER, si ce n'est bien sûr de pouvoir se lever le lendemain matin pour aller à la tefila.
Deux éléments.
Ne faites pas comme moi, qui termine le CEDER à 5-6 heures du matin. Et...
qui a des difficultés le lendemain pour ça.
Non, je sais pas, mais en tout cas, bien sûr, je plaisante. Au contraire, c'est magnifique lorsqu'on est tellement plongé dans cette expérience qu'on ne voit même plus l'heure tourner. Mais
il y a une histoire comme ça dans la Haggadah.
Oui, bien sûr, exactement. Ouais. C'est une histoire qu'on raconte au tout début de la Haggadah avec ces cinq sages qui étaient attablés tellement, tellement passionnés par ce récit de la sortie d'Égypte qu'ils ne se sont même pas rendus compte que le jour s'était levé et ce sont leurs élèves qui ont dû les rappeler à l'ordre.
Deux éléments sont importants à Pessah, c'est la matzah. La matzah, on en a parlé. Pourquoi les quatre coupes de vin ont cette importance?
Alors, pourquoi importance, mais pas importance.
Le vin, les raisins.
Importance, alors je dirais relative, pas relative, c'est une des mitzvot fondamentales. Parce que le chiffre 4 est omniprésent le soir de Pessah. Et lorsqu'on parle de 4, des 4 enfants, lorsqu'on parle des 4, justement, des 4 coupes de vin, le chiffre 4 revient de manière régulière, les 4 questions du Manishtana, eh bien, il y a aussi les 4 mitzvot. Alors, les 4 mitzvot, justement, du soir du Seder sont la matzah, vous l'avez rappelé, le récit de la Haggadah. Hein. Ça, ce sont les 2 mitzvot qui sont d'Oraïta, c'est-à-dire qui sont d'origine toraïque. Et nous avons 2 autres mitzvot qui sont très, très importantes, qui viennent compléter ces 4 mitzvot essentiels du soir du Seder, mais qui ne sont que d'origine rabbinique, de source rabbinique. Mmh. C'est le maror, en tout cas le maror à notre époque, puisqu'il n'est pas consommé avec le Korban Pessah, nous n'avons plus de temple. Et les 4 coupes de vin qui ont été instituées par les sages, là aussi, comme une progression finalement avec du vin. Alors, pour ceux qui ne supportent pas le vin, bien sûr, ou le mélange avec du jus de raisin, ou uniquement du jus de raisin, ou commencer par du vin et terminer les 2 derniers avec du jus de raisin, chacun, bien sûr, fera en fonction de ses propres capacités. Mais vous l'avez compris, au départ, l'idée, c'est qu'avec ces quatre coupes de vin progressives, eh bien, on prend de plus en plus de plaisir. Le vin est toujours considéré comme l'un des aliments qui, plus on en consomme, plus on prend du plaisir. Ce n'est pas forcément le cas avec les autres aliments. Bien sûr, boire avec modération, toujours, le soir du CDR. C'est pour ça que je préconise toujours d'utiliser des cossottes, des verres qui ne soient pas trop grands. Je dis chiour minimum, taille minimale pour le verre du kidouche du soir du CDR, 8,6 centilitres. Ouais, certains sont... Marmirim se montre un peu plus sévère, veut l'utiliser 15 centilitres, mais étant donné que la mitzvah des Arba Kossot, des quatre coupes de vin, n'est que d'origine rabbinique, eh bien, on peut utiliser la plus petite quantité qui est 8,6 centilitres. Et donc, ces quatre coupes, c'est une progression, c'est un voyage un petit peu dans cette soirée du CDR qui rappelle, c'est ce que nous disent nos sages, les quatre langages qui ont été utilisés par Hachem dans la Torah pour nous parler des différentes étapes de la libération du peuple. Donc il y a une progression, ça s'est fait, ça ne s'est pas fait la libération ou la sortie d'Égypte a eu lieu en un instant, mais elle a été précédée par des étapes progressives, l'arrêt des travaux, une désaliénation psychologique, etc. Et ce sont ces différentes étapes, ces quatre étapes que nous venons célébrer au travers de ces quatre coupes de vin.
Un mot sur cette différence de minhag entre Ashkenaz et Sfarad. Alors il y a évidemment la différence entre le Gefeltufish et le Mtsuki. Mais il y en a une particulière que vous voulez noter ? Alors,
il y a énormément de minagim différents le soir du Seder et chacun devra absolument, à partir encore une fois où ces minagim ne sont pas en contradiction avec la halakha, c'est sûr que si quelqu'un a l'habitude de manger de la baguette le soir du Seder, c'est un minag à bannir. Je peux l'annoncer haut et fort à ce micro, qu'il soit Ashkenaz ou Sepharad. Si ce minag n'est pas en contradiction avec la halakha, avec la loi juive, eh bien, continuez à observer vos traditions, continuez à consommer les aliments que vous avez toujours consommés pour le karpas. On le sait, c'est un exemple parmi d'autres, mais le karpas, qui est une des premières étapes du CEDER, eh bien, voit les communautés consommer chacune un légume bien particulier. Les Alsaciens consommaient du cerfeuil ou du persil. Un peu plus à l'est, c'était du radis, c'était de l'oignon, c'était éventuellement de la pomme de terre. Chez les Sfaradim, c'était plutôt du céleri. Continuez à observer ces minagim. Continuez à observer vos minagim durant le Maguid. La tradition chez les Sfarim de passer le plateau au-dessus des têtes en chantant Bibilou, ce qui ne se fait pas du tout chez les Ashkenazim. On a énormément de traditions. Bien sûr, peut-être la plus importante, la plus notable à rappeler, parce qu'elle a une répercussion sur la halakha, c'est bien sûr l'interdiction pour les Ashkenazim de consommer des kitniot ou des produits contenant des kitniot. Ce sont des légumineuses comme le maïs, comme le soja, comme ce genre de produits. Et donc, bien sûr, pour cela, on fera attention en achetant ces produits de Pessah, que ces produits ne comportent pas la mention kasher les Pessah, kitniot. Voilà, il faudra que ce soit marqué sans kitniot. Pour donc, les Ashkenazim, c'est, on va dire, une des choses qui a le plus de répercussions au niveau de la...
Alors, on va aller très vite parce que vous êtes très pressé, on le comprend. En cette veille de Pessah, à partir de samedi, on lira le premier soir du Homer. Qu'est-ce que c'est le Homer en deux mots ?
Alors le Homer, c'était une mesure d'orge qui était apportée au temple, justement ce 16 Nissan, en ce deuxième jour de Pessah, et enfin qui n'était d'ailleurs, je vous le rappelle, en Eretz Israël, est déjà un jour de Chol HaMoed, et pas un jour de Yom Tov. Et ce conte, en réalité, du Homer, et c'est Homer donc marqué le début, en réalité, d'une longue étape qui allait conduire jusqu'au moment de la fête de Shavuot à apporter deux pains, cette fois-ci, qui étaient, eux, faits avec du blé. Donc, on passe de l'orge au blé. La symbolique, bien sûr, de la progression qui nous amène de l'orge au blé, c'est cette construction du Klal Israël, c'est cette capacité à progresser au niveau de sa maturité, une maturité intellectuelle qui va amener le Klal Israël encore vraiment au niveau vraiment embryonnaire de son développement, eh bien, à progresser pour recevoir la Torah en toute maturité. Et c'est ça, finalement, le blé. Le blé, c'est l'aliment de l'homme. L'orge est l'aliment des animaux. Et donc, il y a dans ce conte du Homer qui nous amène jusqu'à Shavuot, vraiment la volonté d'encourager l'homme à cette progression spirituelle. Rappelons que le Klal Israël, le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, était vraiment engoncé dans les 49 portes d'impureté. Il était à la limite de basculer dans la 50e porte d'impureté, qui aurait été un stade complètement irréversible. Eh bien, il a été sauvé vraiment au dernier moment, et il a réussi, durant les 50 jours qui le séparent de la fête de Shavuot, à remonter chaque jour un de ces degrés d'impureté pour arriver dans un état vraiment de pureté, de préparation parfaite le jour de Shavuot.
Je voudrais juste signaler, parce que je sais que vous êtes très marmire sur ça, sur le Eruv Tashvidin. Ce sera jeudi soir avant la fête. C'est quoi le Eruv Tashvidin et le principe?
Alors moi, je ne suis pas particulièrement marmire. Le Eruv Tashvidin, c'est une halakha qui concerne tout le monde. Je rappelle qu'il y a une interdiction à Yom Tov de cuire pour le deuxième Yom Tov, a fortiori de cuire pour un jour profane, mais on ne peut pas cuire non plus. Alors vous savez qu'à Yom Tov, il y a encore une fois un Yom Tov qui ne tombe pas Shabbat, ce ne sera pas le cas cette année où le premier jour de Pessah est un Shabbat, on ne pourra pas cuire le Shabbat, mais lorsqu'un Yom Tov tombe un jour de fête, eh bien la permission de cuire qui est donnée à Yom Tov, de cuisiner en tout cas pour le jour de Yom Tov, eh bien ne fonctionne pas, ne marche pas pour le jour de Yom Tov suivant. Vraiment, à chaque jour, sa permission de cuire, on ne peut pas préparer d'un jour sur l'autre. Ce qui pose un problème lorsque le jour de Yom Tov est immédiatement suivi du jour du Shabbat, étant donné qu'on ne peut pas cuisiner le Shabbat, alors on est bloqué. Si on ne peut pas cuisiner ni le Yom Tov, ni le jour du Shabbat, et ça sera le cas cette année, on a Yom Tov qui tombe vendredi et Shabbat, comment fait-on pour préparer son Shabbat? Eh bien, il y a donc pour cela une astuce qui s'appelle le Eruv Tavshilin. Et le Eruv Tavshilin consiste à préparer donc la veille de Yom Tov. En l'occurrence, on fera ça le jeudi, avant l'allumage des bougies, avant le jeudi soir. Donc à prendre, là en l'occurrence c'est Pessah, donc on prendra une matzah. On prendra un aliment. Alors le plus simple, c'est de cuire un œuf. C'est-à-dire qu'on a les deux, un aliment cuit au four et un aliment qui est cuit à la casserole. Ça peut être un œuf, ça peut être un morceau de poisson, de viande. L'œuf a l'avantage, un œuf dur, de bien se conserver. On récitera, donc on réunira ces aliments et on récitera une bénédiction que vous pouvez trouver dans n'importe quel sidour, que ce soit dans la Tfila Blog, dans le Patach Eliaou, vous chercherez dans le sommaire, dans la Haggadah aussi souvent, et bien ce geste-là, et avec une formule donc consacrée, juste après la bracha, qui finalement est déjà marque le début d'une préparation. C'est comme si on avait déjà commencé à préparer son repas déjà avant le Yom Tov, et donc on ne fera par la suite, finalement, le vendredi, que continuer cette préparation qui a déjà commencé. Donc, de cette manière, eh bien, il y aura une autorisation de pouvoir préparer son Shabbat le vendredi, bien que ce soit d'ordinaire, donc sans Eruv Tavshilin interdit. Le Eruv Tavshilin permet de préparer son repas de Shabbat le vendredi, donc à l'avance, pour le Shabbat. Bien sûr, il faut faire attention à ce que ce Eruv soit soigneusement gardé de côté, à ce qu'il ne soit surtout pas consommé avant qu'on ait terminé les préparatifs du Shabbat. S'il a été consommé, entièrement mangé, on ne pourra plus continuer à préparer. Donc vraiment, soigneusement mettre ce Eruv de côté. On peut le mettre au-dessus du frigo, on peut le mettre à un endroit. Il y a une tradition, effectivement, vous faites bien de poser la question, autant il est important de ne pas le consommer avant, autant il y a une tradition pour que ça ait du sens, pour qu'on montre que cette préparation n'était pas juste un subterfuge, de consommer ce Eruv, et la tradition est de le consommer à Seouda Shlichit, mais on pourrait le consommer même avant, puisque une fois qu'on est rentré dans Shabbat, de toute façon, on ne sera plus amené à cuisiner, mais la tradition est d'utiliser la matzah du Eruv à Seouda Shlichit, de faire moti dessus et de le consommer à ce moment-là.
Une minute pour le message du grand rabbin aux auditeurs de la radio.
Écoutez, mon message de Pessah ne va pas être très original. C'est un message à la fois de pensée pour les personnes qui souffrent, pour les personnes qui sont seules. Leur dire vraiment qu'on pense très très fort à elles. Je veux féliciter aussi du fond du cœur tous les organismes qui se démènent vraiment pour permettre aux gens les plus démunis de passer un Pessah digne. Je pense bien sûr au panier du cœur, je pense au travail extraordinaire qui est fait bien sûr par l'ASJ, je pense au travail extraordinaire qui est fait par Ahava, par Chesed, par toutes ces associations à Strasbourg et d'autres encore que par discrétion, je ne citerai pas parce qu'elles ne veulent pas être citées, mais qui font un travail exceptionnel et qui font appel à la générosité de chacune et chacun. Et vous êtes extrêmement généreuses et généreux pour que tout le monde puisse bénéficier de ce dont il a besoin à Pessah, des produits, éventuellement des vêtements, tout ce qui est première nécessité. Et c'est très important que tout le monde puisse passer cette fête de Pessah vraiment dans de bonnes conditions. On est conscient de l'augmentation de la vie, on est conscient de l'augmentation finalement de tout, de la totalité des produits. Et les produits cachers sont les premiers à être touchés. Et vraiment, on vous souhaite du fond du cœur une merveilleuse fête de Pessah. Et ce que je souhaite, bien sûr, ce sera le mot de la fin, c'est qu'on puisse très rapidement assister à la venue du Mashiach, se retrouver tous ensemble à Yerushalayim. Il y aura de la place pour tout le monde et je suis sûr que les loyers seront abordables après la venue du Mashiach.
Merci beaucoup, monsieur Grand Rabbin. Bonne fête de Pessah. Gut Yom Tov, comme on dit chez nous. Et puis à très, très bientôt.
Voilà, Gut Yom Tov et Bao Gut, comme on dit chez les Alsaciens.
Ah, d'accord.